Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes amis, bienvenue place du marché. Avant de faire notre marché, pour une fois, on va passer chez le boulanger. Hein ? Qu'est-ce que ça vous dit ça ? Ah oui, ça donne envie. Alors en général, on y passe après le marché pour ne pas se trimballer nos baguettes dans tout le marché, hein, sous les légumes, pour pas qu'elles se ramollissent, etc. Et pour que le pain soit le plus proche de la sortie du four possible. Donc on y va juste avant de rentrer déjeuner, préparer son déjeuner. Mais ce matin, on parle d'abord du pain et après on s'occupera du reste. Car se tenait en début de semaine à Paris le salon Europain, le salon de la boulange, hein, comme on dit, dans le métier. Et je reçois justement le patron des boulangers ce matin, Dominique Enracte, qui est président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier la pâtisserie dans le métier de la boulangerie. Enfin, votre sujet, c'est quand même vraiment le pain, Dominique. Hein.
Oui, bonjour, tout à fait. Là, on est Confédération nationale de la boulangerie pure. Ouais. La vraie boulangerie artisanale.
La boulangerie artisanale. Là aussi, hein, on va faire des distinctions au cours de cette émission. Parler du vrai pain, du bon pain, du pain dans notre culture, dans notre inconscient collectif. Le pain fait partie de nos vies, c'est normal. C'est notre sucre lent privilégié ici en France et dans l'Occident. Plus ou moins, effectivement. On va en parler de ça avec Steven Kaplan, qu'on reçoit ce matin. Bonjour Steven.
Bonjour.
Steven, vous êtes universitaire, prof d'histoire et auteur de nombreux livres, notamment sur le pain. Alors, je cite, hein, parce que moi, je vous ai connu au moment de Chercher le pain, qui était un guide des boulangeries parisiennes.
Le premier
guide.
Et le dernier.
parce que c'est un sacré boulot.
Oh,
hein.
Là.
Moi aussi, je ne donnerai plus.
J'ai des miettes toujours dans mon voiture.
Le retour du bon pain, donc Chercher le pain, le pain maudit, la France et son pain. En fait, vous faites un livre sur deux sur le pain. Et là, vous venez de publier chez Fayard, Pour le pain, qui est un vrai manifeste, on peut dire ?
On pourrait dire, oui.
Ouais, on pourrait dire ça. Et alors, vous avez comme particularité, comme particularisme, je dirais presque, d'être américain de naissance.
Hélas, mais
tombé dans le pain en 62.
Voilà.
Hein, parce que je raconte la petite histoire, on vous envoie, votre prof de l'université américaine, donc vous envoie ici à Paris pour découvrir la France.
Pour devenir honnête homme.
Un honnête homme dans l'acception du XVIIIe siècle. Voilà. Et il tombe rue du Cherche-Midi sur la boulangerie Poilane. Et là, c'est un coup de foot, Steven.
Oui. À l'âge avant le monoproduit. Donc, j'ai pris un bâtard. Je ne savais pas ce que c'était. Et ça a infléchi ma vie.
Oui, quelque part. Ça a changé votre vie,
oui,
on peut dire. Hein,
oui.
Parce que d'une chaire d'histoire dont vous rêviez peut-être à l'époque, vous êtes devenu prof d'histoire du pain, pratiquement.
Pas tout à fait, mais quasiment.
Hein, ça occupe une grande place dans votre vie.
Bien sûr.
D'ailleurs, le pain occupe une grande place dans votre vie, comme il occupe une grande place dans celle des Français, Dominique Enracte. Parce qu'il fait intimement partie de notre culture, de cette fameux repas français, hein, qui est maintenant gravé dans les tablettes de l'UNESCO. Le pain, ça existe depuis toujours.
Tout à fait, le pain existe toujours, la baguette depuis un peu moins longtemps quand même, hein, ça a une centaine d'années, on le sait.
Ouais.
Mais ça s'est vraiment inscrit, alors même si on ne mange plus les 700 grammes de pain par jour et par personne d'après-guerre, on est maintenant à une centaine de grammes de pain, puisque l'alimentation a changé. Mmh. Effectivement, ça reste quand même extrêmement gravé. On sait que c'est le commerce préféré des Français, ça c'est quand même... Le commerce préféré des Français, on est élu une fois de plus. Et on sait que 95% des gens mangent des baguettes tous les jours, donc ça fait partie du rythme de la vie journalier. C'est la première course qu'on donne à faire à un enfant, c'est le premier élément dur qui vient du bébé qui grignote pour ses dents, donc c'est quand même extrêmement présent.
Version lumineuse, c'est parce qu'on peut prendre ça de notre côté.
Oui,
je veux
Steven
dire,
Kaplan.
De 600 grammes en 1900, on est à peut-être à 80 grammes aujourd'hui, à peine.
Et 100 grammes de
plus en plus. Je pense qu'il est à 95 grammes.
D'après François Grimmer, c'est un peu moins. Bon, peu importe. Et si on fait une ventilation, les femmes sont à 45 grammes à peine. Les gamins, de moins en moins, c'est les buns et les pizzas. Ça, je trouve dramatique.
Oui, mais la pizza, c'est du pain aussi.
Enfin,
quand elle est bonne.
Non, c'est autre chose. Donc, je crois que l'emprise du pain, et je dirais même l'envoûtement par le pain, c'est en train de diminuer de façon dramatique. Et c'est ça qui me fait crier.
Ça vous fait du mal,
À la fois alarme et amour.
En fait, vous voudriez que chaque Français qui vient au monde, au moment de rencontrer le pain, ait le même coup de foudre que vous en 62 quand vous avez mangé votre premier bâtard.
Il faut comprendre pourquoi il y a une espèce de désaffection pour le pain. Parce qu'il y en a, c'est certain. Et ça, c'est le grand problème pour moi que doivent affronter les boulangers, notamment artisanaux. 54 000 artisans en 1956, 27 000, 28 000 aujourd'hui. Quand même, c'est troublant.
Mais alors,
la montée des chaînes, et pour ne pas parler de l'industrie.
J'ose à peine parler de certaines marques de fournil, puisqu'on ne peut pas dire boulangerie, hein, quand les pains ne sont pas fabriqués sur place. On va en revenir sur la législation, peut-être, avec Dominique Enrac dans un instant. Mais l'ennemi, c'est l'industriel, au fond, plus que le désamour pour le pain des Français.
Il y a eu des marchés qui se sont partagés, effectivement. On a eu une concurrence grandissante. Mm-hmm. Les industriels se sont mis à livrer des écoles, des casernes. Tout ça, c'était les boulangers qui fabriquaient. Donc, petit à petit, il y a eu des histoires de livraison, etc., qui sont venues. Ce qui fait qu'on s'est partagé un peu le marché. On a perdu des parts de marché au niveau de l'artisanat parce qu'il y avait aussi des petites boulangeries qui étaient pas aux normes, qui n'ont pas suivi, Il y a eu un écrémage dans certains villages.
Parce que les règles sont de plus en plus strictes, les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, etc.
Tout à fait. Et puis aussi, les gens ont pris l'habitude. Vous savez, quand il y a eu les supermarchés ont commencé à acheter du pain chez les boulangers pour le vendre, et après, dès que ça a marché, ils les ont fait eux-mêmes.
Bah oui.
Et puis ils ont pris encore des parts de marché, c'était pratique d'aller faire les courses.
Mais en 1960, moi je parle, je suis le défenseur le plus acharné du monde artisanal, mais j'essaie d'être réaliste. En 1960, part de marché de l'industrie, zéro. Mmh. Aujourd'hui, part de marché de l'industrie, 42, 43, 45, ça dépend comment on regarde. Je crois que les artisans ont fait des erreurs importantes, des erreurs stratégiques.
Steven Kaplan, il y a un paradoxe. Le pain est de meilleur en meilleur, grâce à des législations justement qui ont supprimé des substances qui ne devraient pas être dans le pain, dans la baguette, ce qu'on disait normale. La baguette de tradition est une vraie baguette de blé, pour faire simple. Et en même temps, l'industrie monte et fait un mauvais pain à côté du pain artisanal qu'on peut trouver.
L'industrie fait parfois un pain excellent, parfois un pain très mauvais. Le problème pour moi, si on se limite aux artisans, il faut qu'on comprenne, et puis aux Français, sur les 6 milliards de baguettes, plus ou moins, qu'on consomme pendant toute l'année, à peu près 3/4 sont des baguettes blanches, dites de consommation courante, lessivées, dénaturées, insipides, sans intérêt. La baguette de tradition bien réalisée est formidable. Pain somptueux. Pain, pour moi, envoûtant.
Et emblématique. C'est notre identité, la baguette.
Il faut qu'on se pose la question, pourquoi tellement de Français mangent tellement de pain médiocre?
Et peut-être parce qu'ils ont été mal habitués, Dominique Enrac.
Tout à fait. Il y a eu aussi une époque de mauvais pain que vous avez bien connu, qu'on a dénoncé, le pain rapide, beaucoup de sel, beaucoup de levure, etc., qui nous a fait perdre des parts de marché. Mais là, par rapport à cette tradition, cette qualité, c'est vrai que l'artisan boulanger s'est toujours remis en question. Et là, au niveau des produits, on voit avec le snacking, avec la pâtisserie, ils ont toujours évolué et suivi le temps. Par contre, il y a quelque chose au niveau des industriels qui ont pris quand même des parts de marché. Vous savez, c'est pas facile pour un artisan, par exemple, d'aller prendre une part de marché sur une mairie, sur une caserne. Parce que maintenant, il y a des appels d'offres. Des grands comptes, il y a des appels d'offres qui sont extrêmement compliqués pour dire pas possible pour un artisan tout seul à remplir un appel
d'offres. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'artisan ne peut pas vendre au même prix que l'industriel?
Alors ça, c'est certain. On n'a pas du tout les mêmes... Vous savez, tout est mécanisé en industrie. Ils achètent la farine beaucoup moins cher. C'est pas la même farine, c'est
pas
le même produit.
France, on le sait.
Et bien sûr, l'artisan,
c'est le temps pour l'artisan.
Voilà, tout à fait. Donc ça coûte cher, mais c'est pas le même produit non plus. Et donc on a quand même encore beaucoup de gens qui disent quelquefois acheter parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils font leurs courses, acheter du pain dans l'industrie, mais qu'ils aiment encore acheter leur pain chez le boulanger. Et quand ils ont une... il y a quand même beaucoup de 33 000 boulangeries, un peu plus que 27 000. Mais quand on est... Il y en a un peu partout dans les villes et les villages, et même les tout petits villages, il y a encore des petites boulangeries que l'industrie, il n'y en a pas.
Et je rappelle que boulangerie, c'est un pain qui est conçu, et réalisé et cuit sur place.
Tout à fait. Il y a une loi de 98 qui était la loi Raffarin, qui a bien apporté à la boulangerie, dans le sens où, pour s'appeler boulanger ou boulangerie, la personne fabrique, pétrit, façonne et cuit le pain sur place. Donc ça a été quelque chose quand même de très très bon pour l'époque.
Oui, mais ça, il y avait exception pour l'industrie à l'export. Ils pouvaient donc parler de boulangerie, ils n'étaient pas exclus. Et puis ils ont trouvé des élégances lyriques pour parler de Fournil, de Dominique et de Ça, c'était...
C'est des terminologies effectivement trompeuses.
C'est un petit jeu trompeux.
On va y revenir et puis on ira vous titiller un peu, Stephen Kaplan, pour savoir si c'est le même problème aux États-Unis, hein, si on a des bonnes boulangeries. Allez, on va revenir, on ira visiter Europe 1 dans une seconde, hein, ce salon, pour parler alors là peut-être du haut du panier qui est la Coupe du Monde de boulangerie qui se tenait en début de semaine. À tout de suite.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
De retour, Place du Marché, c'est plutôt chez le boulanger qu'on est aujourd'hui pour évoquer ce salon Europe 1 qui se tenait à la Porte de Versailles à Paris en début de semaine. Et j'ai avec moi Dominique Enrac, le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie, et Stephen Kaplan qui est universitaire et auteur de nombreux livres sur le pain. Il est tombé dans le pain hein, quand il était jeune. Voilà. Alors messieurs, si vous le voulez bien, on va aborder un sujet, puisque c'était quand même l'objet aussi de cette émission, c'est cette fameuse Coupe du Monde de boulangerie qui est organisée, enfin qui a été créée par un mof boulanger, Christian Vabret, qui possède, Dominique, des écoles de boulangerie dans le monde, à partir d'Aurillac, son terroir.
Tout à fait. Il est à Aurillac, donc, où il a une école de boulangerie, Christian Vabret, et puis aussi il a une école en Chine, et il est très présent à l'international, puisque c'est lui qui est à la Confédération et est responsable des relations étrangères.
Ah, c'est l'ambassadeur, c'est le quai d'Orsay de la Confédération.
Voilà, tout à fait.
Bah super, super. Vous le connaissez, Stephen Kaplan ?
Je le connais.
Hein, c'est d'abord un bon boulanger.
C'est un homme admirable, c'est un battant, c'est quelqu'un combatif. Il me fait penser à Philippe Viron, un meunier qui, il y a très longtemps...
Ah, le Chartres.
Très longtemps, voulait la création d'un ministère pour la promotion
de
la baguette à l'étranger. J'ai trouvé ça formidable.
C'est une belle idée, vous auriez été ambassadeur, je suis sûr, hein, Stephen, hein, avec votre amour du pain que vous avez porté aux États-Unis et ailleurs. Mes amis, c'était en début de semaine, c'était une épreuve qui durait sur 3 jours, avec des nations venues du monde entier. On écoute tout de suite Christian Vabret, le créateur.
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Alors Christian Vabret, c'est le deuxième jour d'épreuve ici sur la Coupe du Monde de boulangerie.
Oui, deuxième jour, premier jour très très chaud on va dire, parce qu'on avait des poids lourds, des équipes très habituées on va dire à la compétition.
Et notamment la France.
Notamment la France, mais aussi la Chine de Taipei et nos amis américains, ainsi que nos amis de la Côte d'Ivoire. Donc c'était très très haut niveau et ça a été vraiment un régal des yeux, avant bien sûr pour le jury d'être un régal tout court.
Alors lorsqu'on regarde en arrière les précédentes éditions, il y a eu la France qui a gagné, puis ensuite Japon, Corée. Donc les nations de l'Asie, elles sont très fortes en boulangerie.
Alors aujourd'hui, c'est eux qui sont devant. Pour une bonne raison, c'est qu'ils se passionnent pour ce concours de la Coupe du Monde de la boulangerie et qu'en même temps, c'est des gens très précieux. C'est-à-dire quand ils s'occupent de recettes, quand ils s'occupent de faire de l'artistique et quand ils font de la recherche, ils sont très, très performants. Et donc, ils sont en train de nous dépasser. Il est temps qu'on se ressaisisse, nous, les pays européens, mais la compétition et surtout l'esprit boulanger doit perdurer et surtout être de tradition chez nous.
Alors là, la Coupe du Monde de la boulangerie, on s'en doute, c'est le haut du panier de la boulangerie. Hein. Au-dessus des baguettes, il y a la Coupe du Monde. Et comment ça se passe, les épreuves, hein, pour quelqu'un qui arrive, qui ne comprend pas forcément comment ça se passe, quel est le déroulé d'une épreuve pour les candidats?
Alors le déroulé, il est très simple, c'est qu'il faut constituer par pays une équipe de 3 boulangers qui est accompagnée par ce qu'on appelle un coach, un entraîneur. Donc c'est très important aussi d'avoir quelqu'un qui soutient cette équipe parce qu'elle a 2 responsabilités. Elle défend l'honneur du pays, mais elle défend aussi l'honneur de la boulangerie. Donc c'est très important. Donc les 3 boulangers qui sont dans l'équipe, un fait le pain, l'autre la viennoiserie et l'autre la partie artistique. Et on relie les 3 avec une modernité qui est dans la boulangerie aujourd'hui, les produits salés, puisqu'ils sont obligés de faire une partie snacking qu'on appelle aujourd'hui, et qui est présenté sur la pièce artistique.
Alors, le pain qu'on doit faire quand on est à la Coupe du Monde de boulangerie, c'est un pain qui est d'essence française et européenne, ou est-ce qu'on laisse la place à la créativité de chaque pays? On sait bien que les Japonais, par exemple, sont plutôt des as du pain de mie. Il faut quand même qu'ils fassent des baguettes, j'imagine.
Alors, on a une partie, effectivement, obligatoire, donc figure imposée la baguette, le pain au levain. Pour la partie viennoiserie, c'est les croissants, le pain au chocolat, pas la chocolatine, ils ne connaissent pas ça. Le pain au chocolat, et puis donc on les oblige à respecter des règles, bien sûr, là-dessus. Et on les laisse par contre libres de choix sur la créativité et surtout le pain des pays concernés. Et en même temps, on leur a introduit toute la partie biologique et la partie nutrition et santé. Donc à chaque fois, ils sont obligés de réaliser, à partir des fois même de produits d'improvisation et de tirage au sort de matières premières, de réaliser devant le jury international tous ces éléments.
Oui, pour montrer que ce n'est pas uniquement un travail de préparation qu'ils auraient fait minutieusement, mais aussi leur qualité d'improvisation comme professionnel de la boulangerie.
Tout à fait, parce que je pense que l'artisan improvise tous les jours. Quand il arrive dans son fournil, il a des paramètres qui change tous les jours, et en même temps il a une clientèle et les saisons qui passent. Donc utiliser des produits bien sûr frais, utiliser des techniques qui permettent aussi de faire une évolution dans nos produits, et bien sûr le but c'est d'arriver à l'excellence, comme on le fait dans nos entreprises artisanales, à la Coupe du Monde, c'est l'obligation et la barre est très très haut.
Ce qui est extraordinaire, Dominique Enracte, l'impression que j'ai eue quand j'ai vu ce concours de la Coupe du Monde, d'abord, ça fait penser à la Coupe du Monde de pâtisserie qui se tient à Lyon en alternance, hein, je dirais, avec celle-ci, au Syrah, c'est-à-dire une tenue exceptionnelle. Mais le métier de boulanger, on l'entend dans ce que dit Christian Babré, c'est extrêmement technique, mais aussi avec une part de feeling, hein, parce que la pâte levée, c'est vivant, et donc on peut imaginer qu'il faut qu'un boulanger sente son pain. C'est pas seulement de la technique mathématique.
Tout à fait. Le pain, c'est vraiment une espèce d'alchimie. C'est-à-dire que vous avez des recettes, mais en plus, il y a une température, il y a le fait que les blés sont différents, le fait que la température de l'eau, même l'eau, est différente, ce qui fait que c'est toute une alchimie qu'il faut mettre au point. C'est pour ça aussi que dans l'artisanat, on n'a pas toujours la même baguette de tradition. Et quelques degrés sur une baguette de tradition, par exemple, ça change tout. Donc c'est vraiment de la chimie.
Et puis alors, il y a la petite touche supplémentaire qui est la touche artistique. Et écoutez ce qu'en dit Christian Babré.
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Fernion.
Boulanger, on le sait bien, c'est de faire du bon pain. Hein, donc le goût est super important dans les épreuves. Mais il y a une épreuve artistique aussi, parce qu'on sait qu'en boutique, c'est important de donner envie aux clients d'acheter du pain. Et donc cette pièce artistique, elle prend une importance considérable dans ce concours.
Alors déjà, elle a toujours été considérée, parce que ça a été une volonté de changer l'image du boulanger. Le boulanger avait une très bonne image, on voit la caricature un peu à la Rému.
Un peu rustique.
Et donc, effectivement, quand vous visitez les allées du salon, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des boulangers qui soient en tenue professionnelle, qui aient une belle allure et qui représentent bien leur profession.
Steven Kaplan, vous qui êtes un spécialiste du pain, vous êtes sensible au côté artistique, au côté visuel de cette boulangerie moderne?
Écoutez, la première chose du pain, c'est que ça, c'est un objet qu'on mange sans intermédiation des ustensiles. C'est très sensuel, c'est très charnel. Or, sur les... il y a toucher, il y a huile, il y a goût, il y a arôme.
Et la vue.
Mais 80% des entrées sensorielles, c'est la vue. Donc, je parle d'une espèce de concupiscence que doit provoquer le pain. Si ça ne fait pas saliver, le consommateur ne va pas aller plus loin. Donc, cette dimension artistique, ça me semble important, même si c'est vrai que, que parmi les meilleurs pains que j'ai jamais mangés, c'était des pains très très laids.
Qui étaient moches?
Oui, ça arrive.
Il y a une baillère, on trouve de plus en plus de ces fameuses baguettes tordues, là, qui sont des pains qui sont façonnés de façon ultra rustique, parce que c'est presque un retour vers le passé. On en a besoin aussi des repères pour nous.
Tout à fait, il y a le côté rustique qui revient, et c'est vrai, regardez par exemple la baguette de tradition qui est souvent seulement une fois lamée. Et qui
Qu'est-ce
est un
que
peu...
c'est lamée?
Lamée, c'est la scarification. Ce coup de lame qui permet à la baguette de grandir d'une manière harmonieuse au moment de la pousse.
D'ailleurs, Dominique Enrac, un petit parallèle, plus personne ne se rase avec des lames de rasoir comme on trouvait il y a 50 ans, il n'y a plus que les boulangers pour se servir de ces lames-là.
Tout à fait, on se sert encore de ça, ouais. Tout à fait.
Quand j'ai fait ma préparation de CAP, j'ai échoué, mais j'ai fait quand même 3 mois en fournil. J'avais un maître d'apprentissage qui se rasait avec son rasoir.
Avec son rasoir, et ensuite qui grignait.
Non, ça ne trouve plus tellement.
Et ça ne se fait plus, mais il faisait ses ablutions dans le pétrin.
Vous entendez ça, Christian Vabray, qui est avec nous au téléphone. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour.
Vous rasez pas avec votre... oui. C'est un autre temps, ça.
Hein? C'est un autre temps, on n'en parlera même pas.
On n'en parlera même pas. Non, et puis les règles d'hygiène sont tellement strictes en boulangerie aussi, même si ça cuit par la suite et que ça, voilà, ça stérilise un peu le pain, hein, bien ouais. sûr. Par la température. Christian, maintenant que ce concours est passé, que vous avez pu vous reposer, parce que ça, c'est intense, hein, les jours du Salon européen, hein, pour vous.
Ah ben c'est
vous êtes au four et au moulin, comme on dit.
10h du soir, parce que c'est un enchaînement. Hein, on travaille sur quelques fournils et les équipes se relaient, donc il faut préparer la veille et bien sûr le lendemain réaliser les œuvres.
Alors, voilà, moi j'y suis passé la veille de la dernière épreuve, enfin du dernier jour de la finale. Et du coup, moi je connais le résultat, mais je voulais que vous nous le donniez, parce que c'est un podium assez inédit, mais qui rejoint un peu ce qu'on se disait. Donnez-nous donc ce palmarès. Le troisième, c'était qui ?
Alors, le troisième, donc on est très heureux, parce que c'est un pays qui a bien travaillé par rapport à un collectif,
ouais, ouais.
C'est des jeunes boulangers qui sont venus très motivés, et on avait l'impression qu'ils n'étaient pas que trois, c'est tous les autres qui les ont encouragés.
D'accord.
En permanence.
Une délégation.
Le Danemark.
Le Danemark.
Qui a réalisé une très belle performance avec vraiment une organisation qui a séduit le jury.
Oui, dont on rappelle que la dégustation est la note la plus importante quand même, hein, même voilà, s'il y a de l'artistique, hein, c'est quand même c'est faire du bon pain. On est d'accord ?
Voilà, les gens viennent nous voir en disant « Ouais, mais c'est joli, ça fait un peu moins bien. » On leur dit « Oui, mais nous, 40%... »
on mange du pain.
Voilà, c'est là le goût. Et du coup, on attend vraiment les résultats du jury parce que à l'œil, ça serait presque trompeur.
Alors, le jury, il a donné la deuxième place à qui ? À quelle
Alors,
équipe ?
Le jury a eu du mal à départager les deux premiers. Et le deuxième, donc, c'est le Japon qui a fait une brillante... performance.
Ils sont forts hein, en cuisine, en pâtisserie et en boulangerie maintenant alors.
Très très fort. Alors depuis, il y a une longue tradition, la Coupe du Monde là-bas c'est le concours de référence depuis plus de 25 ans et ils ont la chance eux d'être des gens très esthétiques. Ils ont la chance d'avoir de la finesse dans leur travail.
Et alors là, la pièce artistique, excusez-moi, mais moi j'ai adoré hein, cette batterie avec des grenouilles dessus, un décor entièrement en pâte à pain, qu'elle soit levée ou non, entièrement comestible. Hein, c'est
image
ça.
De Carlos Ghosn mangeable. Là-dessus.
Comment ?
Image de Carlos Ghosn là-dessus.
Oui, c'est ça, oui, oui. Petite image, petit portrait. Alors,
on cherchera si la grenouille a des...
Oui, oui, avec des airs de Carlos. Et alors bon, donc le Japon, c'est pas une surprise, ils ont gagné il y a deux éditions, hein, donc ils sont toujours à l'affût pour être sur les marches du podium. Mais révélez-nous qui a gagné, qui est champion du monde cette année de boulangerie.
Alors, la grande surprise, c'est que c'est la Chine qui a remporté ce fameux grand concours international qui est la Coupe du Monde de la boulangerie.
Incroyable.
Alors, c'est très étonnant parce que c'est un parcours à une rapidité, c'est impressionnant. Moi, ça fait 21 ans que je vais en Chine pour porter la bonne parole et de faire déguster. Et pendant 10 ans, ce pain était boudé parce qu'il était salé, c'était un pain à croûte, les Asiatiques n'aiment pas bien. Et depuis 10 ans,
ils ont intégré.
On a commencé à sentir le frémissement et ils se sont passionnés pour les concours. Et aujourd'hui, ils sont en train de rafler tous les concours.
Eh bien, ça nous rappelle.
Uniquement par leur travail, leur finesse et leur recherche. Et du coup, ben, le goût y était. Et puis on a vu une très belle équipe des
Christian,
jeunes chinois.
Je dois laisser le temps d'une page de publicité et digérer un peu ce que l'on vient d'apprendre, que les Français ne sont pas sur le podium et que la Chine est une des grandes nouvelles nations du pain. Mais il ne faut pas oublier que le riz, ça n'est que dans le sud de la Chine. Dans le nord, on utilise le blé depuis des millénaires. On revient tout de suite pour conclure avec vous cette Coupe du Monde de la boulangerie.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, retour dans le pétrin. Enfin, dans le pétrin, oui. Pour l'équipe de France, ils étaient carrément dans le pétrin à la Coupe du Monde aux boulangeries, puisqu'ils ne se sont pas hissés sur les marches du podium. Je vous rappelle le palmarès que vient de nous rappeler Christian Vabray, le fondateur de cette Coupe du Monde. Troisième, le Danemark. Et on les félicite. Hein, pour les nations scandinaves, faire du bon pain, bah, c'est un challenge. Hein, c'est pas dans leur culture. Quoique le pain noir, on trouve des très bons pains noirs. Mais pour la baguette, c'est autre chose. Deuxième marche de ce podium, le Japon. Comme vous nous le disiez à l'instant, Christian, et premier et vainqueur et donc champion du monde, la Chine. Hein, la Chine, ça semble fou, parce que évidemment pas une culture du pain, Christian Vabray, pas du tout de culture du pain.
Alors pas du tout de culture du pain, malgré qu'ils aient eux un pain à la vapeur.
Oui, c'est ça.
Qu'on appelle le montao, qui est un pain souvent sucré et en même temps fourré.
Oui, un peu comme ces bao, quoi, ces brioches vapeur, quoi. Ouais.
Mais qui reste pour eux de blanc, et donc c'est le symbole.
Eh oui, pas de croûte. De croûte.
Et pas de croûte, surtout. Alors là, on est tombé dans un autre monde, et je peux vous dire, pour connaître bien la Chine, que ça va faire un boom dans ce pays. Déjà qu'on était surpris hein, de l'effervescence autour du pain, on va dire occidental, du pain à croûte, mais là, ça va faire un boom. Et vous aviez raison de dire aussi qu'ils ont des blés. Alors pour l'instant, on leur demande, et je pense que M. Kaplan ne dira pas le contraire, on leur demande d'utiliser des blés français si possible,
oui.
Ou des farines françaises.
Bien sûr.
Parce que bien sûr, on leur dit les origines du pain, c'est ça, et puis il faut, voilà. Mais ils sont capables de
faire eux aussi. On va en parler avec nos amis Christian, de la force du blé, hein, puisque c'est le terme que l'on emploie. Merci beaucoup Christian Vabray, et encore bravo hein, pour cette belle édition.
Par rapport aux Français, parce que je suis sûr que vos auditeurs sont
les Bretons, nos petits Bretons.
Voilà, ils ont très très bien travaillé. Il y avait une équipe, il y avait vraiment de la puissance dans leur travail, parce qu'on avait la chance d'avoir une équipe bretonne qui se connaissent bien et qui avaient fait un bel entraînement.
Bah oui.
Mais ce qu'il faut savoir que...
Où est-ce que ça a pêché,
passé
alors
dans un mouchoir de poche, et qu'à ce niveau-là, c'est des petites notes supplémentaires, et peut-être aussi la cohérence du travail et tout qui a fait la différence.
Merci.
Donc, voilà, qu'on ne soit pas déçus, les Français, il faut y revenir, il faut se préparer. Il faut faire comme les Asiatiques, travailler la
fête, bosser quoi. Hein. Mais ça, c'est ça. Les boulangers, ils ont l'habitude de travailler. Hein. Ça, ouais. On peut dire que ils y vont. Voilà. Et je vous laisse retourner à vos écoles pour continuer de transmettre cette passion du pain et le savoir-faire qui va avec. Bonne journée, Christian Vabray. Bon dimanche à vous. Steven, ça, à la fois, ça fait frémir et en même temps, c'est porteur d'espoir que le bon pain s'exporte.
Disons très clairement que tout ça, c'est un hommage à la France. Car l'inspiration, en quelque sorte, le geyser de tous les goûts et des arômes, c'est d'origine française. Moi, je considère que la France, aujourd'hui, je le dis dans mon livre, pâtit d'une vraie érosion de la culture du pain. Mais cette culture du pain, d'origine française, prospère à l'étranger.
Dans le monde, ouais.
Et les Danois, en cuisine comme en pain, sont en train de monter.
Oui, les Scandinaves en général.
Les Japonais et les Chinois, dans une première phase, étaient dans l'imitation stricte. Maintenant, ils sont dans une créativité, dans une inventivité. La Chine est très, très puissante. Évidemment.
Steven, on ne peut pas parler de pain sans parler de blé. Et je vous ai un petit peu titillé hors antenne parce qu'on parle de blé de force. Hein, c'est-à-dire, en fait, je schématise un peu, mais c'est, on va dire, le taux de gluten qui se trouve. Alors, à la mode du sans gluten, ça va. On n'en a pas trop parlé cette année à Europe 1. Ça s'est calmé globalement. Alors, on pense toujours à ceux qui ont vraiment la maladie cœliaque et pour qui c'est un enfer. En revanche, les allergiques au gluten autoproclamés qui disent « oui, je suis intolérant, j'aime pas ça », ça s'est un peu calmé, mais pourtant, le gluten, c'est important. Donc, les blés, c'est très important. Et les blés américains ne sont pas les blés français, par exemple.
Non, les blés américains sont historiquement les blés dits de force. Ils ont un W, c'est-à-dire une mesure de force boulangère très importante.
Pourquoi on dit force ? Parce que c'est l'architecture du pain hein, quand il cuit. Hein, c'est presque les colonnes des bulles.
Pour subir les ravages...
C'est ce qui maintient la baguette.
C'est ce qui maintient la baguette gonflée.
Pour subir les ravages de la panification, il faut une certaine force. Or, les Français ont compris... bien après la guerre, deuxième guerre, qu'il fallait faire autrement. Donc, dans le temps, ils importaient de Manitoba et aussi de Minnesota énormément de blés américains,
pour renforcer leur blé, renforcer leur farine.
Maintenant, ça ne se fait plus. Et inspiré par les paysans boulangers, il y a aujourd'hui une recherche pour les W plus modestes, pour un gluten plus doux, moins agressif, moins pugnace, dans l'espoir qu'ils peuvent créer des pains qui seraient moins difficiles pour beaucoup de gens à digérer.
Dominique Grandrac, vous qui êtes le président de la Confédération de la Boulangerie, ça vous a fait du mal, la mode du sans gluten? Ça a taillé des parts?
Ce qu'on a, bon, on voit qu'historiquement, du temps de Parmentier, il y avait des gens allergiques au gluten, qui étaient déjà cœliaques. Donc ensuite, on a une petite mode de gens, c'est vrai, quelquefois, qui ont été prescrits en disant, voilà, supprimez ça, vous sentirez mieux, mais je crois que c'était d'une manière de consommation en général. La personne qui abusait un peu de tout, si elle supprimait le pain et tout, forcément, elle se sentait bien, donc c'était vite fait d'associer ça au
c'est
gluten.
C'est ça, quand on supprime on tout, on se sent mieux, oui.
On ne l'a pas vraiment ressenti, parce que la personne qui est vraiment cœliaque, je dirais, elle ne va pas chez le boulanger, elle a ses adresses de choses peut-être un peu plus... avoir la certitude qu'il n'y a pas de gluten.
La force d'une farine, c'est important, en dehors de ses arômes, hein, pour un boulanger. Oui. Moi, je vois encore des baguettes dites de tradition, mais qui sont plates, hein, qui ressemblent à des galettes, c'est pas normal.
Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que le gluten, on n'est pas des pro-gluten, parce qu'on ne travaille pas rapidement, contrairement notamment à l'industrie, où il y a des processus de congélation, etc. Sûr. Nous, on va chercher la force de la farine dans la fermentation.
Et dans le travail.
Et la fermentation, plusieurs fermentations sur une baguette de tradition, c'est 4 ou 5 heures de fermentation minimum. Donc là, on va chercher le W. Alors effectivement, comme cette baguette est faite à la main et qu'il faut que ça suive, eh ben, quelquefois, il peut y avoir une baguette qui est plate si elle est prise un peu plus tard ou elle ne sera pas forcément mauvaise, mais quelquefois, elle n'est pas aussi ronde qu'on pourrait le souhaiter.
Écoutez, il y avait un grand partenaire de cette Coupe du Monde de boulangerie et on n'y pense pas assez souvent, c'est la Maison Le Saffre qui fournit la levure. Et on parle souvent de blé quand on parle de pain et justement, vous le disiez, la fermentation, c'est aussi le nœud de ce métier. Écoutez ce qu'en dit la porte-parole de cette maison.
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Nadine Debaille, la maison Le Saffre, elle est partenaire historique de cette Coupe du Monde de boulangerie parce que la levure, c'est super important. On parle toujours du blé quand on pense boulangerie et on oublie la levure qui anime en définitive cette farine.
Alors oui, pour animer, on anime effectivement parce que la levure, de toute façon, c'est la fermentation. La fermentation, c'est la vie et la vie, c'est ce que les boulangers donnent au pain.
La vie, il y a toujours une magie, il y a toujours de l'impondérable. Vous, ce que vous essayez à travers vos produits, c'est évidemment d'avoir une vie contrôlée en quelque sorte, pour que d'un boulanger à l'autre, quelles que soient les conditions climatiques, les conditions de température, il puisse contrôler la pousse de son pain. D'ailleurs, ça se fabrique comment la levure? On se doute bien que c'est des petits champignons, hein, mais ça se fait à partir de sucre, de betterave?
Oui et non. En fait, d'abord, on a les champignons. Et puis les champignons, pour croître et embellir, ont besoin d'être nourris. Donc ils sont nourris avec un apport de sucre, effectivement, qui permet la démultiplication des cellules de levure. Et en fait, notre savoir-faire consiste effectivement à contrôler cette croissance, à contrôler le fait que du début à la fin, que ce soit d'un petit batch, comme on appelle dans le milieu, à les cellules finales, la qualité, elle reste constante pour donner cette régularité après dans l'utilisation qu'en ont les boulangers.
Steven Kaplan, je voyais réagir.
Mais j'allais dire que le soft, c'est formidable, mais il y a tout de même ici une certaine paradoxe, parce que le soft n'est pas toujours l'ami des artisans.
Pourquoi ?
Parce que le soft, en quelque sorte, conforte les boulangers un peu routinisés, fatigués par le métier, qui cherchent des raccourcis. Or, quand on remonte dans le temps, c'était l'abandon du levain en faveur de la levure qui a déclenché un long processus de médiocrité du pain. Je n'impute pas ça à Le Saffre, mais je dis, tout comme Dominique se méfie de l'industrie en parlant de la panification, je me méfie énormément de l'industrie par rapport aux ingrédientistes.
D'accord, mais ce n'est pas un mauvais ingrédient, la levure. C'est quand même, la levure est utilisée pour les baguettes de tradition, par exemple.
Tout à fait, la levure est un produit levant qui accompagne le levain, puisqu'on peut faire, mais que du levain, c'est vrai qu'on aurait des produits lourds et qui seraient peut-être difficile à consommer. En plus, c'est vrai que le Saffre est vraiment une très belle maison française qui a une technologie particulière qui s'adapte à tous les climats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire sans levure, ça ne serait pas possible. Il faut, je crois, faire tout comme il faut. C'est-à-dire, voilà, une bonne levure avec un bon levain pour arriver à avoir une baguette de tradition merveilleuse.
Oui, une baguette de tradition merveilleuse, c'est une alchimie, hein, parce qu'effectivement, tous les composants qui rentrent dedans, et le travail, et les conditions, je disais, d'hygrométrie, de température, tout joue dans la confection d'un bon pain.
Moi, je suis favorable au travail sur la tradition avec une levure, mais il y a bien de boulangers qui travaillent avec un levain, notamment liquide.
Est-ce qu'on peut expliquer, Dominique, simplement pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas tous des boulangers, la différence entre levure et levain ?
Alors la levure, effectivement, c'est de Saccharomyces cervillac, c'est un champignon qui est fait et préparé.
Microscopique,
des petits blocs
hein,
qu'on prend d'ailleurs, pour, cèpes, hein. Même pour les, quelquefois les gens personnels, qu'on arrive à mettre dans le pain. Qui
oui,
va,
c'est
qui
le cube qu'on va acheter chez son boulanger levure, voilà, si on veut faire de la brioche
qui,
à la maison.
Qui va faire lever, qui n'est pas une levure chimique, attention.
D'accord.
Et ensuite le levain, alors là il y a différents levains, il y a du levain liquide, il y a du levain solide, qui sont en fait avec lesquels on part avec des fruits, du miel, différentes choses pour faire fermenter, qu'on met un peu comme le vinaigre, qu'on va faire sur 3-4 jours, après une semaine.
On va chercher ces levures indigènes, en quelque sorte, qui sont dans le produit de base.
Tout à fait, c'est fabriqué individuellement.
Le vin, ce sont des levures sauvages et des bactéries lactiques et acides. Or, la levure, on doit s'en servir avec beaucoup de modération. Dans les années 30, on en mettait beaucoup trop, avec aussi de l'acide ascorbique, beaucoup de sel.
Ça, c'est ce qui est interdit dans la baguette de tradition.
L'absence de
bien
goût.
Sûr, bien sûr. Parce,
mais ça,
parce,
c'était
que, parce qu'ils avaient supprimé le pointage, la première fermentation. C'est Dominique qui connaît ça mieux que moi.
Oh oui, messieurs. Alors, écoutez, on va passer une page. On va laisser retomber un petit peu le pain là, hein, parce que ça a levé. Là, ça a levé. On s'énerve un petit peu. C'est normal. Hein, on veut du bon pain et on veut savoir comment le faire. On se retrouve dans une minute.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Fernion.
De retour Place du Marché dans le Fournil, et le four est chaud ce matin puisqu'on parle de pain avec Stephen Kaplan, qui est auteur universitaire, auteur du livre Pour le pain, mais c'est son 6e ou 7e livre sur le pain, donc on peut dire qu'il a vraiment épuisé le sujet. Vous croyez? Ben non, il va recommencer.
Non, pas encore.
On peut en parler chaque année, effectivement, puisque c'est un monde qui évolue. Et en face de lui, Dominique Enract, qui est le président de la Confédération des boulangers. Ils sont souvent d'accord, mais pas surtout, évidemment, ils n'ont pas le même angle de vue sur le métier de la boulangerie. Et moi, au milieu de tout ça, j'essaye de faire mon pain avec ça. Et ce n'est pas toujours très simple. Alors, on a entendu donc les résultats tout à l'heure de cette Coupe du Monde de boulangerie, avec la Chine qui est arrivée en première place. Très honnêtement, dans votre livre Pour le pain, qui est une petite sorte de petit cri d'alarme, Stephen Kaplan.
Et d'amour.
Ça accompagne, en fait. Il n'y aurait pas d'alarme si vous vous en fichiez, globalement. Vous êtes New-Yorkais de naissance, mais tombé dans le pain dans les années 60, et en fait, ça a été le sujet de votre vie. Alors, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui sur la situation de la boulangerie et du pain en France ?
Je ne suis pas décliniste, je suis un peu pessimiste tout de même.
Ouais.
L'important, c'était d'avoir remis en valeur, au centre, la fermentation, notamment la première fermentation. Ça, c'est le décret pain de...
Pourquoi
13,
il y en a
septembre
plusieurs
93. Non, mais la deuxième fermentation, ça ne donne pas forcément les arômes et les goûts.
D'accord.
Donc, cela, déjà, c'était très important. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de boulangers, parce que le métier est dur, parce que c'est compliqué, parce que la concurrence est vive, se sont routinisés et s'arc-boutent sur des pratiques qui sont peut-être... Il faut les remettre en question. Donc, je trouve qu'il faut que le boulanger commence à déguster systématiquement son pain, au lieu de dire, dans une tautologie confortable, je l'ai fait, donc il est bon. Il faut qu'il essaie d'examiner, d'être plus introspectif. Le consommateur, souvent très blasé en France, parce que c'est quand même le pays du pain, doit sortir aussi de sa tautologie où il dit, c'est bon. Pourquoi ? Parce que c'est bon.
Parce que j'aime ça. Oui, et se souvenir que le pain est un aliment, Hein, ce n'est pas uniquement un adjuvant, ce n'est pas uniquement un accompagnant. C'est un vrai aliment s'il est bien fait, Dominique Henrac.
Ah, tout à fait. C'est quelque chose d'important, le pain, hein, qui est à table, qui accompagne au restaurant, etc. Donc, bah, écoutez, moi, je suis optimiste déjà parce que je suis président
de la
Confédération. C'est bien,
on est un pessimiste, un optimiste,
je suis
entre les deux.
Mieux. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, en province, partout, et bon, je vois plein de nouvelles générations qui arrivent, qui travaillent bien à l'ancienne. Et qui font tous leurs produits, le pain, la viennoiserie, la pâtisserie, et ça marche. Il y a la queue devant les magasins, et on le voit. Et en plus, pour ça, on a créé d'ailleurs une charte de qualité qui va s'appeler Boulanger de France, et dans laquelle on reprend un petit peu tout ce que Stephen Kaplan dit, c'est-à-dire des fermentations lentes, du travail bien fait. Et là, croyez-moi, on a lancé cette charte à Europe 1 sur le salon, et ça a explosé. Donc, moi, je suis très
Attendez, quand
optimiste.
Vous dites Europe 1, Europe 1, hein, on est à Sud Radio, donc ça m'ennuie un petit peu quand on lit les deux. Europe 1, le salon
dans
un
état jacobin.
Oui,
tout à fait. Donc, je reste très optimiste pour les artisans, parce qu'on voit, regardez, dans un village, quand une boulangerie ferme, c'est une catastrophe.
Donc,
il faut que les artisans continuent de s'améliorer, de suivre, s'améliorer tout en gardant les traditions de fermentation, ce qui est bien pour le produit, mais aussi pour le consommateur. Et je crois qu'on a encore de beaux jours devant nous.
Oui, parce que je rappelle que tout président de la Confédération que vous êtes d'abord boulanger, et ici à Paris...
C'est une obligation.
C'est une obligation. Ah bah oui, quand même, hein, connaître le métier. Un petit mot pour, vraiment, parce qu'on n'a plus tellement de temps, mais je voulais vous demander, est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a le même phénomène d'engouement de la jeunesse, comme on a connu celui pour les cuisiniers, puis les pâtissiers maintenant sont vraiment en tête d'affiche. Est-ce que le boulanger est en train de sortir de son pétrin, lui aussi?
Écoutez, c'est un métier manuel, donc ça a été un petit peu compliqué. On en parle beaucoup, 9000 postes à pourvoir. Mais là, les écoles sont pleines. Et en plus, par exemple, en pâtisserie, on a plus de femmes que d'hommes.
Ah, ça,
parité,
c'est bien,
c'est formidable.
Oui.
Mmh. En boulangerie, on commence à avoir beaucoup de femmes. Par exemple, le meilleur jeune boulanger de France, qui est un concours organisé par la Confédération, où on a des très bons. Le podium, deux filles sur trois. Mmh. Donc, c'est un métier où, effectivement, on fait encore une grosse communication en leur disant, venez chez nous, vous aurez un CDI, vous pouvez monter votre affaire, et c'est quand même un métier merveilleux, où en plus on peut voyager, partir à l'étranger, puisqu'on s'ouvre à l'international, la preuve en est avec ce concours.
Il faut revoir complètement l'éducation des jeunes boulangers, l'apprentissage marche mal, car les deux tiers quittent le métier 6 mois après avoir obtenu le brevet, en partie. Il faut que ça soit plus envoûtant pour les jeunes, il faut leur donner plus d'envie de faire, il faut plus de femmes, parce qu'elles zappent moins. Il faut inciter les gens de manger davantage de pain. Parce que si on reste à 80 grammes par personne, c'est foutu à la longue.
Donc gloire au sandwich, hein, qui est une invention anglaise. Il faut le dire. Hein. Mais enfin, qui utilise le meilleur pain français.
On a quand même l'indice du jambon beurre. Hein. Je peux te dire une dernière chose.
Oui, mais vraiment en 30 secondes.
Vraiment 30 secondes. Ce qui serait important au niveau pour avoir des apprentis, des gens, il y a un gros travail au niveau de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut nous flécher les jeunes de façon à leur dire, voilà, il y a une carrière à faire en boulangerie.
Merci Dominique Henrac, je rappelle que vous êtes président de la Confédération des boulangers, donc vous savez de quoi vous parlez. Et Stephen Kaplan, universitaire spécialiste du pain, j'espère que quand vous retournez à New York, puisque vous partagez votre vie entre Paris et New York, vous emportez des baguettes avec vous pour vos copains américains.
Il y a quelques boulangers qui travaillent bien à New York.
Oui, des Français ou des Américains?
Les deux.
Les deux. Eh bien voilà, ça, on est content, on sait que quand on ira à New York, on aura du bon pain. Merci beaucoup messieurs. On change un tout petit peu de sujet, j'ai appelé un très grand chef multi-étoilé marseillais que nous avons en ligne, c'est Alexandre Mazia. Bonjour Alexandre.
Bonjour, bonjour Vincent, bonjour à tous.
Comment allez-vous,
bonjour.
Chef?
Écoutez, très très bien, très heureux de vous entendre, merci.
Super,
en ce
beau dimanche matin, en temps de Marseille, c'est toujours s'assurer un peu de soleil, hein, surtout au cœur de l'hiver.
Toujours, il fait toujours très beau en plus.
J'ai Alexandre,
on a des jours magnifiques.
Je voulais vous avoir en ligne parce que vous êtes le parrain d'un événement culinaire, gastronomique qui porte le nom de Sud dans le nom, et donc on se devait
Food
à Sud Radio.
Le salon Food in Sud, tout à fait.
Ah voilà, donc on se devait à Sud Radio d'être partenaire de cet événement. Qu'est-ce que c'est la culture Sud? Vous en êtes l'apôtre, évidemment. Cette culture Sud en cuisine, comment elle va s'exprimer à Food in Sud?
Cette culture Sud, c'est-à-dire que nous allons avoir de grands événements faits par de nombreuses associations. Il y aura six associations au niveau culinaire, niveau gastronomique qui seront présentées, dont Gourmet Méditerranée, dont je fais partie, une belle association avec un savoir-faire incroyable sur le territoire, avec des gens merveilleux. Et nous avons, donc il y aura beaucoup d'événements donc liés au niveau de la gastronomie, mais aussi sur une démarche, on va dire, territoriale, territoire, même si c'est un événement national. Mm-hmm. Vous allez avoir donc des... des concours avec des créations salées sur un poisson farci, mais notamment avec des crustacés, puis une garniture du légume d'ici, c'est-à-dire du légume du terroir.
Ah, ça me dit, ça.
Voilà, amené par un maître d'hôtel. Le maître d'hôtel, donc, aura la charge de la découpe et de mettre aussi en avant un accord Mézévin sur ce concours. Donc, il va y avoir des événements très importants. Il va y avoir aussi, notamment, on parlait de remarques de formation tout à l'heure, j'entendais, donc il va y avoir le concours du meilleur apprenti pâtissier, qui va développer là-bas. Il va y avoir le championnat du monde de la pizza. Il va y avoir aussi une masterclass sur la pizza, justement, on parlait de pain, mais sur le pain, mais sans gluten aussi.
C'est pas grave, hein, voilà, il en faut aussi pour ceux qui n'aiment pas ça.
Bien sûr, mais et après, vous avez derrière aussi tout ce qui est très engagé sur le développement durable maintenant, qui est une nécessité vitale, je pense. Et qui vont imputer aussi nos établissements, qui vont permettre un nouveau développement, une nouvelle ère. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'en parler, mais aussi de proposer des choses à mettre en place, des systèmes que l'on peut tous mettre à notre niveau, à différentes échelles, qui puissent nous permettre d'avancer.
Et en matière de pêche également, parce que évidemment, Marseille porte la Méditerranée, cette mer fermée où tout impact écologique prend des proportions monstrueuses.
Hein. Exactement. Quand vous voyez les fonds marins, c'est assez incroyable. Et puis voilà, une pêche raisonnée, une pêche de saison, saisonnalité, voilà, quand on voit tout ce qui se passe.
Alexandre, c'est indissociable de votre cuisine, hein, cette pensée écologique et durable. Hein.
Elle a toujours fait partie évidemment de ce que l'on fait aujourd'hui. On a mis en place un compost, on remet à chacun de nos maraîchers, on a un système, vous savez, de déconditionnement de produits ou laquelle on les réutilise derrière. On évite évidemment la grande maladie, je dirais, des cuisiniers et notre métier, c'est le plastique.
Pas seulement des cuisiniers.
On essaye évidemment.
Dans nos cuisines de particuliers aussi, d'amateurs.
Aussi, je sais bien. On essaye d'intervenir aussi dans les écoles, à nos niveaux, au niveau des institutions.
Oui, je sais que vous vous bougez, hein, et pourtant vous ne chômez pas en cuisine. Alexandre, vous nous rappelez les dates de cet événement ?
Sur Food in Sud, donc le grand événement seront du 26 au 28 janvier.
Ouais.
Vont être des événements importants avec différents acteurs.
À la fin de cette semaine, quoi. Hein, voilà.
À la fin de la semaine prochaine.
Voilà, enfin, de la semaine qui commence, oui. D'accord.
Voilà, exactement.
Ok, génial. Food in Sud, on y sera. Hein, on y sera avec Sud Radio et on sera content de vous voir et de goûter votre cuisine. Merci, bonne journée, chef.
Merci beaucoup.
Bon dimanche sous le soleil. Merci à tous mes amis d'être venus faire votre marché avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 10h, vous connaissez l'adresse Place du Marché. Cette fois, de haute cuisine japonaise, nous allons parler. Hein, oui, de haute cuisine. Et oui, après la deuxième place du Japon à la Coupe du Monde de boulangerie ce matin, on l'a appris, et la première de la Chine, on ne quitte plus la gastronomie d'Asie qui fait vraiment partie de nos vies. Hein, soyons clairs, cette cuisine venue d'Extrême-Orient, elle est rentrée dans l'Occident et pour notre plus grand bonheur. Alors bon dimanche, on se retrouve la semaine prochaine à 10h et d'ici là, aucun sushi.
Sud Radio, Place du Marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.